Alors, bonjour et puis merci de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui. Je voudrais m'excuser. J'ai été informée assez tardivement que je serais dans une session du réseau francophone et donc j'ai, parce que c'est une conférence internationale, j'ai préparé une conférence bilingue. Avec des diapositives en anglais et moi-même qui parlerai français. Donc, voilà. Donc, de toute façon, je vais suivre assez bien le texte. Ne vous inquiétez pas. Donc, en termes d'introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que selon l'Agence canadienne de santé publique, il y aurait environ 242 000 Canadiens qui auraient déjà des anticorps contre le virus de l'hépatite C et qu'en 2007, qui est l'année pour laquelle, la dernière année pour laquelle on a l'information, il y aurait eu 8 000 nouveaux cas d'infection au pays. Parmi les cas d'infection aiguë pour lesquels on a des informations sur les facteurs de risque, on sait que le mode de transmission principal, c'est l'injection de drogue, avec 63 % des cas qui sont reliés à la consommation de drogue par injection. Il faut dire que l'incidence de l'hépatite C au Canada est très élevée. Selon, par exemple, les données de la cohorte des usagers de drogue injectable de Vancouver, la cohorte VIDIS. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie du Canada, le Canada est très grand et Vancouver est sur la côte ouest, sur la côte pacifique du pays. Donc, dans cette ville, on a documenté que l'incidence de l'hépatite C était de 37 % par année chez les jeunes usagers de drogues injectables âgés de 13 à 24 ans. À Montréal, d'où je viens, puisque ça s'entend, l'incidence est à peu près la même chez les jeunes de la rue. Nous avons mené une étude de cohorte chez les jeunes de la rue dont la moitié à peu près s'injecte des drogues et on a pu observer que après 4 ans, déjà 55 % d'entre eux ont acquis l'hépatite C. Donc, un problème très, très important avec probablement une des maladies infectieuses avec le taux d'incidence le plus élevé qu'on ait jamais vu chez nous. Toujours en termes d'introduction, je pense que c'est important de rappeler qu'on connaît relativement bien les pratiques à risque chez les usagers de drogues injectables. Il y a quand même eu plusieurs études qui ont permis de documenter quelles étaient les pratiques qui augmentaient le risque d'attraper le virus. Mais on parle peu d'une pratique qui a été quand même décrite dans quelques études ethnographiques. Aux États-Unis et en Europe, qui est la pratique de l'injection de résidus de drogue, une pratique que chez nous on appelle faire un wash, pour utiliser un anglicisme, et qui consiste à rincer le filtre et la cuillère qui contiennent la substance avec de l'eau pour se faire une injection. Donc, on extrait les restes de drogue qui sont donc restés coincés dans le filtre avec de l'eau pour se l'injecter. Récemment, dans une étude que nous avons menée chez les usagers de cocaïne désinsérés de la rue à Montréal, il faut dire qu'on a beaucoup d'injections de cocaïne à Montréal. C'est vraiment peut-être un peu différent de ce qu'on voit ici en Europe, où la majorité des usagers de drogue par injection rapportent s'être injecté de la cocaïne dans les derniers 6 mois, et c'est la principale drogue d'injection. Donc, dans une étude ethnographique récente qu'on a menée dans cette population-là, ce qu'on a observé, c'est que, oui, la plupart des gens continuent de s'injecter principalement de la cocaïne en poudre, suivie de l'héroïne en poudre, mais sur le terrain, on voit de plus en plus d'injections de médicaments opioïdes, des médicaments qui sont donnés en prescription normalement pour la douleur, qui se retrouvent dans la rue vendus pour des très petites sommes. Ces données ethnographiques-là nous ont interpellés et on a fait des analyses dans des bases de données de surveillance épidémiologique des conduites à risque chez les usagers de drogues injectables. Et ce qu'on voit, c'est que 40 % des injecteurs à Montréal, et c'est à peu près la même proportion au Québec, se sont injectés des médicaments antidouleurs, opioïdes, dans les derniers 6 mois. Cette forte proportion, je dirais, d'injection de médicaments opioïdes est tout à fait cohérente avec l'épidémiologie de la consommation, je dirais, déviée des médicaments en Amérique du Nord. On observe de plus en plus de consommation on pourrait qualifier de déviés, inappropriés de médicaments ou de consommation non médicale de médicaments. Ce qu'on voit à travers les observations ethnographiques, c'est que l'injection ou la préparation d'injection de ces médicaments-là est assez difficile. Ces médicaments-là, ceux qu'on retrouve en circulation, c'est surtout à Montréal de l'hydromorphone, soit en pilule ou en capsule avec des petites billes dedans. Et quand les gens préparent l'injection de cette capsule, ils doivent défaire la capsule, écraser les petites billes, et ça prend des quantités importantes d'eau que les seringues que nous offrons dans les programmes de distribution de matériel sécuritaire ne réussissent pas à accommoder. Les seringues sont trop petites, en fait. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens doivent souvent s'injecter plusieurs fois pour réussir à se faire une injection. Ou à prendre une dose et donc doivent repiquer 2-3 fois dans le filtre et dans la cuillère pour réussir à se faire un hit, comme on dit. Alors, évidemment, ça fait que le filtre est contaminé, la cuillère est contaminée de sang et ça peut éventuellement poser des problèmes en termes de risque d'infection. Ce qu'on observe aussi sur le terrain, c'est que ces matériels, ces filtres saturés de drogue, ont une valeur dans le milieu. Je ne sais pas trop si cette présentation va dans le sens de la thématique de la session qui est sur l'exclusion, mais je pense qu'ici, on peut trouver un filon exclusion parce que c'est clair que dans cette population-là qui est très précaire, et qui est souvent sans domicile, qui a presque pas de sous, le filtre saturé de substances a une grande valeur. Ça peut avoir une valeur pour l'usager lui-même parce qu'il va pouvoir le réutiliser dans les cas où il est en manque et ne trouve pas de drogue ou n'a pas l'argent pour s'en acheter. Mais ça peut aussi être utilisé comme monnaie d'échange, soit parce que pour obtenir quelque chose d'autre, une cigarette, un peu de crack, ou encore en remerciement ou en cadeau. Donc, autrement dit, ces filtres ont une seconde vie. Ils deviennent un peu une substance et circulent dans la communauté. Et ce qu'on observe finalement, c'est que beaucoup des usagers qui ont cette pratique de se faire un wash ne réalisent pas que ça peut être une pratique qui correspond au fond à du partage de filtres. Et dans les questionnaires épidémiologiques qu'on leur fait, soit à travers nos réseaux de surveillance ou dans nos belles études, si on leur demande s'ils ont partagé le filtre récemment, dans les derniers mois ou peu importe, ils vont répondre non, même s'ils ont cette pratique-là, parce que pour eux, ce n'est pas du partage, c'est autre chose. Donc, bref, c'est une longue introduction pour vous dire que cette pratique-là d'injection de résidus pourrait effectivement présenter des risques d'infection transmissible par le sang. Et on pense que dans un contexte nord-américain où on assiste à une épidémie de consommation de médicaments, notamment d'opioïdes dans la communauté, d'usage non médical de ces médicaments-là, c'est une question qui mérite au fond de s'y attarder, c'est-à-dire est-ce qu'il serait possible que ce soit une des causes de cet incident incidence si élevée d'hépatite C dans la communauté des usagers. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse secondaire d'une étude de cohorte prospective, une étude qui implique un suivi des participants sur une base régulière. Ce qu'on a examiné, donc, c'est l'association statistique entre le fait d'avoir cette pratique-là, d'injecter des résidus de drogue, et l'acquisition du virus de l'hépatite C. Il s'agit donc d'une étude qui a été menée auprès de jeunes de la rue. Je pense qu'en Europe, on dit plutôt le mot « errant », mais ce sont des jeunes, en fait, qui, pour la plupart, sont sans domicile fixe et qui vivent de l'économie de la rue. La collecte de données a été faite entre juillet 2001 et décembre 2005. Le recrutement s'est arrêté en juin 2004, mais on a fait, avec les suivis, la collecte s'est terminée en décembre 2005. Pour être éligible à l'étude, il fallait avoir été sans-abri plus d'une fois dans la dernière année ou avoir utilisé les services spécifiques pour jeunes sans-abri dans la dernière année. Il fallait être âgé de 14 à 23 ans et parler le français ou l'anglais. La collecte de données impliquait une entrevue face à face et un prélèvement de sang pour le dépistage des anticorps contre le VIH et contre le VHC. Pour cette analyse spécifique sur l'acquisition de l'hépatite C chez les jeunes usagers de drogues injectables, l'analyse s'est limitée à ceux qui s'étaient injectés des drogues en cours de suivi durant l'étude, donc les jeunes de la rue qui se sont piqués et qui étaient négatifs au début de la collecte de données. Les variables qu'on a examinées pour voir quels étaient les facteurs de risque d'attraper le virus étaient l'âge, le sexe, et tous les comportements à risque proximaux, je dirais, là, de l'infection. Donc, carrément, les conduites de consommation, que ce soit le partage du matériel comme on le connaît et comme décrit dans la littérature, donc partage de seringues, partage de filtres, partage de cuillères, partage d'eau, mais aussi les autres pratiques de partage de drogue comme la pratique du backloading et celle du frontloading, qui sont en fait des techniques de redistribution de drogue entre co-usagers pour que chacun ait sa juste part. Donc, il s'agit de remplir la seringue d'une personne à l'aide de la seringue d'une autre personne, soit en mettant les deux bouts avant bout à bout ou un bout avant qui verse dans le piston de la seringue récipiendaire, si je peux dire. Et, bon, on a regardé aussi d'autres conduites de partage de drogue. Bien sûr, les risques associés à l'injection de résidus. Et on a finalement demandé aussi aux jeunes injecteurs quelle était la drogue qui s'injectait le plus souvent. Pour ce qui est des méthodes statistiques, l'incidence a été calculée avec la méthode de personne-temps et les analyses de prédicteurs ont été faites grâce à la méthode de Cox. Alors, juste pour vous dire que durant le recrutement, on a réussi à recruter 858 jeunes dans le centre-ville de Montréal, essentiellement, dont 69 % étaient des jeunes hommes. 92 % étaient nés au Canada, l'âge moyen de 20 ans et demi à peu près. Le nombre de visites moyen était de 5, donc un assez bon suivi durant la cohorte. Et ça va peut-être vous surprendre un peu, mais dans cette population-là, le taux, la proportion de jeunes qui s'injectent est très élevée. C'est un peu les mêmes proportions qu'on retrouve aussi sur la côte ouest à Vancouver. Donc, c'est presque un jeune sur deux qui dit s'être déjà injecté des drogues. Et quand on regarde l'injection récente, c'est environ le tiers. Donc, 31 % qui disent s'être injectés dans les derniers 6 mois. Les drogues principalement injectées, tantôt j'ai dit, c'est plutôt la cocaïne. Mais chez les plus jeunes, l'héroïne est aussi très populaire. Parce que ça appartient à un imaginaire que j'ai pas le temps de vous expliquer. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est presque moitié-moitié cocaïne, héroïne comme drogue de choix. L'analyse cette analyse-là était restreinte, donc je le disais, aux jeunes injecteurs qui étaient séronégatifs au début de l'étude et qui ont fait au moins un suivi. Ce que vous voyez ici, c'est la description de l'échantillon final. Donc, on a fait l'analyse sur 175 jeunes injecteurs. Ce qu'on peut voir, c'est un peu comme la cohorte mère. La majorité sont des jeunes hommes, début de la vingtaine. Et si on voit, on peut voir ici les conduites de partage. Par exemple, presque 30 % disent être, avoir partagé une seringue dans les derniers 6 mois. Le coton, c'est 14 % la cuillère, 31 % ainsi de suite. En fait, il y a toujours au moins 10 % ça dépend des pratiques, là, mais au moins 10 % des jeunes UDI qui rapportent avoir eu telle ou telle pratique. La pratique la plus rare, c'est le front-loading, mais c'est comme je disais, c'est remplir une seringue avec l'autre en mettant les deux bouts avant vis-à-vis, mais c'est très, très rare ou quasi impossible qu'on fasse ça chez nous à Montréal parce que les aiguilles ne s'enlèvent pas des seringues. Donc, la personne qui l'a fait a dû le faire, ou bien a mal compris la question, ou l'a fait ailleurs qu'à Montréal. Ce qu'on peut voir ici, un peu en ligne avec ce que je vous disais en introduction, c'est que le taux d'incidence est très, très élevé. En cours de suivi, sur les 175 jeunes usagers de drogue injectable qui étaient séronégatifs au départ, il y a 57 jeunes qui ont attrapé le virus pour une incidence de 1 sur 4 environ qui l'attrapent par année. Ici, vous avez les analyses univariées, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est le modèle final. Ce qu'on peut voir ici, c'est deux modèles. Le premier, qui a considéré toutes les conduites de partage, l'âge et le sexe dans le modèle. On peut voir ici que ce qui reste comme prédicteur significatif de l'infection, c'est avoir partagé une seringue qui augmente le risque de 2,5 fois. Comparé à ceux qui n'ont pas partagé la seringue, et avoir s'être injecté des résidus de drogue qui augmentent le risque de 2,15 comparé à ceux qui ne se sont pas injectés de résidus. Et c'est à la limite de la signification statistique. On a ensuite testé un deuxième modèle pour voir si, en contrôlant pour le fait de s'injecter principalement de la cocaïne, l'association demeurait. Et on peut voir que oui, l'association demeure. Le fait de s'injecter principalement de la cocaïne augmente le risque d'acquisition de l'hépatite C, mais ça ne change pas le risque associé à l'injection de résidus qui est encore de 2 fois supérieur comparé à ceux qui ne s'injectent pas de résidus. Alors, les forces de cette étude, c'est que c'est une étude prospective, donc avec un suivi où on peut voir si la conduite à risque a précédé l'infection. Et ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un système très compliqué de suivi pour ces jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas de domicile, mais grâce à la collaboration de plusieurs organismes communautaires et de plusieurs institutions aussi, dont des services de toxicomanie, on réussit à avoir des bons taux de rétention avec une perte d'environ 10 % de jeunes entre deux questionnaires. Les limites, évidemment, c'est qu'on ne peut pas se prononcer sur la généralisabilité des résultats. Bien sûr, on peut se dire que nos résultats sont probablement représentatifs de la population à l'étude. On a eu très peu de refus, mais on ne peut certainement pas se prononcer sur la représentativité de cette étude sur tous les jeunes UDI canadiens. Évidemment, il y a des limites aussi associées au fait qu'on mesure des comportements auto-rapportés. Il se peut que les gens enjolivent parfois leur histoire et sous-déclarent les conduites à risque, mais on a quand même travaillé fort pour que les jeunes se sentent à l'aise quand on faisait des entrevues. Et aussi le fait qu'on les revoit régulièrement, ils se développent quand même une espèce de lien de confiance qui nous dit que ce biais devrait être réduit au minimum. Et comme je disais tantôt, on a eu un bon taux de rétention dans l'étude en général. Alors, la conclusion, c'est que cette étude suggère que l'injection de résidus de drogue Même en contrôlant pour les conduites de partage de filtres, de seringues, de cuillères, est un facteur de risque d'acquisition de l'hépatite C. Et on pense qu'il faudrait refaire cette étude-là auprès de d'autres échantillons d'injecteurs pour voir si les résultats sont reproductibles, parce que ça pourrait effectivement expliquer au moins en partie notre difficulté à contrôler l'incidence si élevée au Canada. Dans un contexte où on a de plus en plus de médicaments en circulation qui favorise cette pratique-là, on peut peut-être s'attendre à ce que ça soit encore difficile pour longtemps de contrôler l'épidémie d'hépatite C dans la communauté des usagers. Alors, je voudrais remercier le personnel de recherche, sans lequel, évidemment, ce travail-là serait impossible, mais aussi les organismes partenaires qui nous ont permis de recruter des jeunes dans leurs murs et de les suivre, et bien sûr, les jeunes eux-mêmes. Je vous remercie.
Merci pour cette communication très fouillée. Une ou deux questions. On commence à être court sur le temps, donc...
C'est un super boulot et on imagine que ceux que vous n'avez pas vus, ça doit être encore pire. Parce que forcément, rien que le fait de voir les jeunes et d'en parler, on diminue l'incidence. Et quand on pose des questions, bien sûr qu'on modifie les représentations.
Oui, ça c'est vrai.
Mais merci pour ce boulot. J'avais deux questions. La première, c'est, on sait que les cotons ou les filtres, aujourd'hui, on s'est rendu compte en France, par exemple, quand on a proposé avec les nouveaux Steribox des cotons, le problème, c'est que le coton, il a une valeur marchande. Alors, à partir du moment où il reste de la drogue dedans, ça se donne, ça se deal, voilà. Donc, on ne peut pas personnaliser le coton. Donc, qu'est-ce que vous avez réfléchi pour décommercialiser le filtre? Et la deuxième question, c'est, vous nous avez rien dit, or qu'on est un certain nombre à s'alarmer face à des jeunes qui ont des pratiques d'injection aujourd'hui sur les problèmes d'abcès et d'endocardite à bas bruit, ou alors on a le nez dans les infections virales, on voit les abcès au bras, etc., mais à mon avis, on sous-évalue largement les endocardites qui vont nous sauter à la figure dans quelques années. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi chez vous?
On n'a pas d'études par rapport à la... Deuxième question, on n'a pas d'études épidémiologiques satisfaisantes sur les infections bactériennes, notamment là, les abcès, les cellulites, les endocardites. Alors ça, c'est clair qu'on n'a aucune donnée de surveillance à ce sujet-là et ça reste un domaine d'études encore vierge chez nous. C'est sûr que ce qui préoccupe beaucoup en termes de santé publique, ce sont les infections virales parce qu'elles sont transmissibles dans la population. Alors, on s'attarde davantage à ce type d'infection, mais je suis d'accord avec vous que c'est souvent le parent pauvre des études. Pour ce qui est de stratégie, moi, je suis rattachée aussi à la Direction de santé publique de Montréal, donc... ce que je fais, je me fais un point d'honneur de faire ça, c'est de toujours travailler avec les gens du milieu, mais aussi ramener les résultats rapidement. Et les autorités de la santé publique sont en train de travailler sur la possibilité de modifier les matériels distribués. Vous avez probablement le même genre de problème avec le Subutex ici. Et je sais qu'il y a actuellement des nouveaux matériels qui sont testés, ou en tout cas qui l'ont été, des toupies, toutes sortes. Je suis ici pour quelques mois, donc j'ai eu la chance de pouvoir être mise au courant de ces choses. Et je sais qu'une des choses que la Santé publique de Montréal est en train de travailler, c'est la possibilité d'abord de donner des seringues plus grandes pour éviter que les gens repiquent 2-3 fois pour avoir le hit. La préoccupation, c'est est-ce qu'on va augmenter les risques de surdose parce que les gens vont se dire des plus grosses seringues, des plus gros hits. Il y a cette préoccupation-là que, bon, est-ce qu'on va augmenter les risques de surdose en changeant les seringues? Donc, je pense qu'il va falloir que ça vienne avec un message de... Même si la seringue est plus grande, ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre 2 fois plus, là, quelque chose comme ça. Parce que c'est certain que dans les milieux aussi précaires que ceux que j'ai étudiés, je crois pas qu'on peut juste dire « faites pas ça » puis parce que c'est dangereux. C'est clair que ça a une valeur, ce matériel. C'est un peu la culture du don, du contre-don. Je ne pense pas que le message de santé publique un peu bête qu'on pourrait... Parce que ça sera pas facile de changer cette pratique-là, c'est sûr, là.
Puis moi, je trouve que c'est jeune, quand ils injectent jeune.
Ah oui, l'âge et moyen de l'injection, de la première injection dans ce groupe-là, c'est 16 ans.
16 ans plus la moitié des consommateurs injectent. C'est énorme quand même, quand on voit...
Ouais. Ça se pourrait que ça soit en train de changer. Là. Les données étaient de 2001-2005. On a mené une autre étude de cohorte par la suite. Ça semble baisser un petit peu, mais c'est très en lien avec le marché. Parce que à Montréal, d'habitude, en fait, ce qu'on avait traditionnellement, c'était surtout de la cocaïne en poudre et de l'héroïne, bien sûr, aussi en poudre. Mais le crack est devenu de plus en plus populaire, je dirais, à partir de 2003. On n'est pas aux États-Unis, hein, on est au Canada. Là, c'est très différent comme épidémiologie des drogues. Et le crack est devenu de plus en plus disponible au Canada depuis 2003, ce qui fait que les gens ont de plus en plus... Les nouveaux usagers de cocaïne vont avoir plus tendance à fumer. Alors, est-ce qu'il y a moins d'injections ou est-ce que l'injection est retardée? À suivre.
Non, mais c'est...
Quand on a parlé, quand vous avez parlé de Subutex, vous avez parlé de toupie.
Oui.
C'est quoi ça?
J'ai pas de photo de ça. Faudrait voir avec les gens de l'INVS, mais c'est un petit filtre qui est en forme de toupie et qui semble être plus efficace pour c'est un filtre
que tu mets sur la cuillère, qui sont distribués à les Steribox et à travers laquelle tu prends le produit avec la Sorex. C'est un gros filtre, quoi.
Oui, c'est comme un gros filtre, mais je sais pas si c'est très populaire, par contre. Je sais qu'il y a plusieurs nouveaux filtres qui sont en train
de... Chez Safe, il y en a. Oui, c'est
Stérifilt, en fait.
Ouais.
C'est populaire, et les filtres, c'est ce qu'on met sur le marché actuellement, qui a une qualité de toute façon pour les particules qui est intéressante versus les filtres cigarettes.
Mais est-ce que c'est vrai que ça serait plus... ça fonctionne seulement qu'avec les seringues injection unique, là?
Non,
qu'on ne peut pas réutiliser?
Tu peux mettre le stérifil, tu peux le mettre sur une lance assez classique qui est certie. Les toupies.
Oui, les toupies, je ne suis pas certaine.
Si tu vois de bêtises, ça marche sur les non-certies.
Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est les seringues à usage unique, là, à mono-usage.
Ça sur celle qu'on aiguille, ça va se mettre sur celle qu'on aiguille. Et il y a aussi des non-certies, c'est les seringues sur lesquelles tu dois rajouter l'aiguille. Donc celle qui sera à usage unique, c'est les seringues certies, celle qui sera à usage pluriel, si tant est que ça fait une solution, parce que ça discute, ça serait donc des non-certies.
Je voulais savoir pour le prix de la cocaïne en Canada,
le prix
environ.
On peut avoir facilement un quart pour 10 $.
$10.
Un quart de gramme.
C'est à peu près le même prix que l'héroïne ou
c'est moins cher que l'héroïne.
La cocaïne est moins chère que l'héroïne.
Et c'est beaucoup plus facile d'accès aussi. Pour avoir l'héroïne, mais ça dépend de la forme. Mais traditionnellement, pour avoir la cocaïne, c'était très facile.
Oui.
Et même dans les régions en province, comme on dit, l'héroïne, c'est plutôt à Montréal, puisque c'est une ville portuaire. Alors que la cocaïne, il y en a partout. Il y en a dans toutes les régions. C'est très facile à obtenir. Et maintenant... Le crack, qui est la forme roche de la cocaïne en poudre, s'est rajouté sur le marché. Donc, c'est pas cher, puis c'est facilement disponible.
Oui, ça m'étonne.
Mais on est proche de l'Amérique du Sud. Comment?
On est proche de l'Amérique.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci.
Élise, merci.
Merci Élise.